donc figure ludique et figure fictive. Donc, je vais déjà faire un petit tour rapide des différents intervenants, que tout le monde sache un petit peu qui est qui. Donc, Fabien Clavel,
commencer par le commencement.
Professeur de français et de latin, qui a vécu donc de nombreuses années en Hongrie, où il enseignait des matières comme le français. Donc, il a commencé sa carrière d'auteur en 2002 en sortant une série romanesque inspirée du jeu de rôle Néphilim, que les rôlistes connaissent bien, et en collaborant à divers jeux de rôle et au magazine Casus Belli. Donc, parmi ses œuvres marquantes, j'en ai relevé quelques-unes, hein, on a La Dernière Odyssée chez Mango, qui est plus en jeunesse, Les Gorgonautes chez Mango, toujours en jeunesse.
C'est la suite.
C'est la suite, d'accord. Homo Vampiris chez Mnemos en 2009, donc qui est totalement notre sujet. Le Châtiment des Flèches chez Pygmalion, donc plus de la fantasy.
C'est de la fantasy historique.
D'accord. Le Dragon et l'Épée chez Mongo, donc littérature jeunesse, suite des deux précédents.
Non, ça cette fois-ci c'est de la fantasy arthurienne.
D'accord. Le Dragon et l'Épée chez Mongo, toujours.
La suite de celui juste avant.
Et enfin, récemment, le Miroir au Vampire chez BAM, dont le tome 2 sort d'ici dans quelques jours. Donc à ses côtés, on a donc Guilhem Barlois, qui est développeur en intelligence artificielle pour le jeu vidéo. Donc lui, il a découvert le lien entre vampire et jeu de rôle à l'âge de 17 ans, autour d'une table du jeu de rôle Vampire la Mascarade. Donc lui, il est plutôt du côté de la sphère rôlistique. Il y a 4 ans, lors d'une soirée enquête autour du jeu Vampire la Mascarade à Montpellier, il entrevoit donc les possibilités offertes par cet aspect du jeu, à savoir passer du papier aux grandeurs nature. Et il y a toutes les possibilités offertes, notamment tout ce qui est Murder Party. Donc il a depuis proposé à l'association lyonnaise Crazy Orc de mettre sur pied ce type d'événement à Lyon, autour de 6 soirées enquêtes, dont la première s'est déroulée il y a un peu plus d'un mois. Donc, on passe ensuite à une jeune auteure, Marie Kegelmann, qui est une auteure suisse, qui a sorti ces derniers mois son premier roman, Rage de Dents, qui a pour originalité d'être un des premiers romans beat-lit typiquement français, francophone, du coup, écrit par une auteure francophone. Elle a écrit pendant plus de 15 ans, mais c'est sa première publication. Et le roman de Marika a aussi comme originalité d'être édité par un éditeur français qui s'appelle Les Éditions du Petit Caveau, qui n'édite que des livres sur le thème du vampire. Et pour finir, donc Jean Marigny, qui était professeur à l'université Stendhal à Grenoble, où il enseignait la littérature anglaise et américaine. Il est fondateur du GERF, qu'on appelait le groupe d'études et de recherche sur le fantastique, et a dirigé pendant de nombreuses années à l'université Stendhal, membre de la branche canadienne de la Transylvanian Society of Dracula, et il a écrit de nombreux ouvrages sur le thème du vampire durant sa carrière, parmi lesquels, donc je vais en citer quelques-uns, 100% Le Réveil des Vampires, un folio découverte que vous pouvez découvrir au rez-de-chaussée, Le Vampire dans la littérature du XXe siècle, chez Honoré Champion, qui est un livre pour le moins complet, La Fascination des Vampires, chez Klingsic en 2009, Dracula, Prince des Ténèbres, chez Larousse en 2009 également, Les Femmes Vampires, qui est une anthologie en fait de textes sur la figure de la femme vampire, en collaboration avec Jacques Finet, aux éditions Jacques Corti en 2010, et prochainement Vampire de la réalité au mythe, aux éditions de La Martinière, qui sortira en octobre-novembre. Voilà. Donc, on va commencer par le commencement. Donc, en guise d'introduction, j'aimerais demander à nos différents intervenants, qu'ils soient essayistes, auteurs ou joueurs, s'ils lisent de la littérature vampirique, quelle image a chacun, en fait, suivant sa position, de la sphère ludique ou de la sphère fictive sur le thème du vampire. Donc, on va commencer par Monsieur Clavel.
J'ai pas bien compris la question.
La question, en fait, est-ce que, en tant qu'auteur, vous connaissez justement des jeux sur le thème du vampire, notamment Vampire la Mascarade, pour citer le plus connu.
Ah, bah j'y ai joué.
D'accord.
Mais j'ai fait une partie. Mais c'était assez amusant. Moi, ce que j'aimais bien, c'était le système de défauts et d'avantages qui se complétaient. Il y avait des points à chaque fois. Et je me souviens qu'il y avait un copain qui avait trouvé un personnage qui avait une espèce de fluide glacial qui arrivait à chaque fois qu'il entrait dans une pièce. Et rien que l'idée me faisait beaucoup rire. Voilà. Donc, c'était pas une partie hyper sérieuse.
D'accord. Et quel est justement, vous, en tant qu'auteur, notamment toi qui as écrit aussi des romans de jeux de rôle, sur justement la sphère fictive, à ce niveau-là, quelle est ton opinion? Est-ce que tu vois un intérêt? Est-ce que pour toi, il y a une complémentarité justement avec la partie fiction, quelque part
Pour le vampire, moi, j'ai un peu honte, hein, mais j'ai jamais lu Dracula, par exemple, parce que le personnage m'a jamais vraiment attiré. Le côté comte qui est replié dans son château. Alors j'ai vu des films adaptés, la plupart de ceux qui ont été adaptés. J'ai bien aimé ces films-là, notamment le Coppola qui justement avait tendance à humaniser un peu le personnage. Mais j'en suis resté un peu là. Quand j'ai commencé à écrire sur les vampires, moi, c'était à cause de Buffy. Donc on est assez loin de Dracula, même s'il apparaît au début de la saison 5, si je ne m'abuse. Et donc vraiment c'était la passion que j'ai pour Buffy, que je tiens pour la meilleure série du monde, qui m'a donné envie d'écrire sur les vampires. Voilà. Alors après j'ai lu un peu de littérature vampirique une fois que j'ai mis mon projet en route, etc. Mais j'ai pas trouvé de roman qui m'ait bouleversé ou qui ait changé ma vision du vampire. Voilà. Donc je suis resté une vision un peu traditionnelle, en tout cas dans la fiction.
D'accord.
Merci. Bah, je vais commencer à parler de la fiction. Alors moi, quand j'étais petit, j'avais lu un roman qui s'appelait « Je suis une légende », je crois. Il y a un film qui est sorti un peu plus tard, qui ressemble plus ou moins au bouquin. Enfin, moins que plus, je crois. Bon, en tout cas, moins que plus. Le souvenir que j'en avais m'avait beaucoup plu, parce que je vais peut-être pas vous raconter le bouquin. Bouchez-vous les oreilles un instant. Au départ, on commence avec des humains qui luttent contre le vampirisme qui s'étend dans le monde. Et puis petit à petit, c'est l'inverse qui se produit. C'est le vampirisme qui domine, et l'humanité qui est vue comme une monstruosité. Et je trouvais ça intéressant. Bon, c'était pas très vampirique comme thème. Sinon, j'aime beaucoup le côté solitaire du vampire dans les films, souvent dans les livres, qu'on va malheureusement pas trop retrouver dans le jeu de rôle. Parce que dans le jeu de rôle, on joue ensemble et on joue tous des vampires souvent. Ou alors c'est un antagoniste à la limite du jeu de rôle. C'est vrai que quand on joue ensemble, bon, bah, c'est tout de suite des vampires plus sociables. Ou alors qui vont s'écharper peut-être, mais qui vont tenter de collaborer, alors que normalement c'est vraiment des. Enfin, c'est plus. Moi je le vois plus comme des prédateurs normalement. Personnage solitaire, un petit peu mystérieux. Ce qui est perdu, je trouve, et qui est dommage dans le jeu de rôle. Ouais.
Alors, je n'ai jamais joué à un jeu avec des vampires, que ce soit jeu de rôle ou autre. J'ai débarqué aussi un petit peu niveau vampire. Je l'ai plutôt rencontré dans le cinéma, et c'est vrai que pour moi, c'était plutôt une créature qui est censée faire peur, et donc pas du tout ludique ou autre. C'est un peu paradoxal si je fais de la bitlite, mais c'est pas vraiment l'image que j'aurais personnellement du vampire, celle qui est véhiculée par la bitlite. Et voilà, pas grand chose de plus à ajouter en fait niveau jeu, c'est pas.
Alors moi, en ce qui concerne de la fiction créatrice, je n'ai joué qu'un rôle très très modeste. Hein. Puisque je n'ai écrit en tout et pour tout que deux nouvelles sur le thème qui ont été publiées. Ça a été ma chance, mais bon, j'ai pas fait carrière dans ce domaine-là. En ce qui concerne les jeux de rôle, évidemment, j'ai pas pu ne pas m'y intéresser, hein, puisque Vampire à Mascarade, à mon avis, c'est vraiment l'origine de la bitlite. Hein. La bitlite est un peu sortie de ces jeux de rôle. Donc je n'ai jamais joué. J'ai été invité par des rôlistes à une de leurs manifestations. J'ai trouvé ça très intéressant. Je me suis fait photographier avec des personnages en costume. J'ai trouvé ça très agréable. Mais c'est la seule expérience que j'ai des jeux de rôle. Donc moi, mon rôle beaucoup plus modeste, c'est de parler des autres et de d'écrire sur les écrits. Et donc, je pense que tout ça, ça forme un tout. Hein, les jeux de rôle, la fiction, et puis la légende aussi, ça forme un ensemble cohérent.
D'accord. Une petite question,
oui,
juste sur vous qui avez le background littéraire. Est-ce que vous avez retrouvé des liens entre la littérature, et notamment Dracula, etc., oui, et Vampire à la Mascarade? Comment se font ces liens-là? Est-ce que Vampire Mascarade fait partie de rien? Ou est-ce que vous avez retrouvé des éléments
Non, alors moi je pense que. Alors là, je ne sais pas, le rôliste qui est à ma droite me dira ce qu'il en pense, mais je pense que ce qui est à l'origine des jeux de rôle comme le Vampire Mascarade, c'est beaucoup plus les vampires d'Anne Rice que le Dracula de Stoker. Je crois que justement, Anne Rice a tourné la page. C'est-à-dire qu'on avait présenté un personnage démoniaque, détestable, encore que Dracula, que lapsus intéressant. Que Coppola lui ait donné un visage beaucoup plus humain, mais il n'en reste pas moins que Dracula, jusqu'à Anne Rice, le vampire d'une façon générale, c'était un personnage maudit. Et Anne Rice nous a montré des personnages qui étaient attachants, humains, qui étaient capables d'aimer, de souffrir, éventuellement même de mourir, hein, donc qui étaient beaucoup plus proches de nous. Et je pense que les jeux de rôle se sont rapprochés énormément de cette conception. Hein. Mm-hmm. D'ailleurs, ce lien que j'ai pu avoir direct avec un jeu de rôle, j'ai remarqué que les personnages étaient costumés comme des personnages d'Anne Rice. Hein. Je pense que c'est pas un c'est hasard. Vrai.
Aborder un point sur la religion, justement. Dans Vampire la Mascarade, le vampire est un pur produit de la religion, en étant notamment descendant de Cain, mm-hmm. une figure religieuse assez marquée. Cette dimension a-t-elle son importance au niveau de la psychologie des personnages que les joueurs incarnent? Pour les auteurs et essayistes, qui à chaque fois on essaye de... Pensez-vous que l'aspect religieux est une constituante du mythe du vampire? Je ne sais pas, vu qu'on a commencé par la partie...
D'accord. Alors, je voudrais juste revenir un instant sur Anne Rice. Effectivement, c'est clairement une inspiration de Vampire la Mascarade. C'est même au début du bouquin, il est conseillé de regarder le film qui en est tiré, Entretien avec un vampire, ou de lire ses livres. Ils sont aussi partis de tous les points. Ils ont pris vraiment une grande partie de la littérature du vampire et ils sont allés chercher vraiment les archétypes de vampire. Donc, le vampire horrible qu'on voit dans Nosferatu, par exemple, qui derrière permet de créer un clan, qui s'appelle le clan Nosferatu dans Vampire. Ils sont allés chercher chaque fois. Un archétype de vampire pour créer vraiment, on va dire, des familles de vampires dans leur jeu de rôle. Donc, pour revenir à votre question, la religion, donc effectivement, dans Vampire, il y a toute une. Enfin, c'est un mystère, on ne sait pas vraiment si c'est ça, mais la légende dit qu'effectivement, au départ, c'était Cain, qui a été mis au banc de la société, et qui s'est retrouvé maudit, et qui a utilisé sa malédiction, donc le fait qu'il ait besoin de se nourrir du sang des autres, pour devenir. Enfin, pour utiliser son sang pour avoir des pouvoirs, et c'est ce qui donne les super-héros de Vampire la Mascarade. Enfin, les vampires, la mascarade. Et donc, la question pour moi, c'était.
Cette dimension a-t-elle son importance au niveau de la psychologie des personnages que les joueurs doivent incarner, en fait, toute cette dimension religieuse, oui. Cet aspect, la foi, en fait, cette relation à la foi.
Alors, dans Vampire la Mascarade, il y a une chose importante, c'est que pour pas sombrer dans la monstruosité, pour pas devenir une bête affamée, on part du principe qu'il faut rester humain, qu'il faut continuer à s'accrocher aux sentiments qu'on avait avant d'être un prédateur qui se soucie de rien du tout. Et donc ça a effectivement une importance, puisque en gros il faut éviter les 7 péchés originels, on va dire. Il faut éviter de voler les gens, de les tuer sans aucune raison, sans quoi on finit par devenir un monstre au fil des siècles, un monstre qui n'a plus rien d'humain et qui finalement finit par baigner dans le sang et se faire tuer par les humains. Donc oui, ça a une importance. Il y a également toute une partie où l'Inquisition va chasser les vampires, donc qui est un ressort dramatique du jeu. Et on peut également citer le fait qu'il y ait des vampires qui soient persuadés qu'ils sont... qu'ils ont besoin de faire le bien autour d'eux et que pour s'accrocher, justement, pour éviter de devenir des monstres, ils vont essayer de devenir des saints, au contraire. Donc vraiment inverser la tendance. Voilà.
Alors moi, je ne vais pas parler pour le jeu de rôle, hein, puisque, comme je vous l'ai dit, je me suis limité à une partie et l'aspect religieux n'était pas hyper présent. Plutôt le fluide glacial, donc vous voyez, c'est pas la même thématique. D'un point de vue personnel, moi, en général... dans la plupart des genres que j'aborde et des créatures, parce que moi j'aime bien changer un peu d'univers à chaque roman, j'ai plutôt tendance à essayer de revenir à la figure qui existait avant la christianisation. Or, la figure du vampire, même si c'est une figure moderne qui est créée au moment où le christianisme est déjà avancé, on a déjà des traces qui existent bien avant. Et donc, je voulais plutôt revenir à un moment où, par exemple, tout ce qui est croix n'a pas d'effet sur le vampire. Donc moi j'ai écrit deux romans différents sur les vampires. Il y en a un, Le miroir aux vampires, où l'aspect religieux est complètement évacué. L'autre par contre, où il y a un aspect religieux dans le sens où, étant donné que ça se situe dans Homo vampiris, ça se situe 50 ans en 2050 à peu près, et devant les problèmes écologiques qui se posent, il y a énormément de courants millénaristes qui se développent, et qui donc chassent les vampires, puisqu'ils estiment que c'est un des symptômes du mal. Voilà. Donc du coup, évidemment, ça va influer sur la psychologie des personnages qui vont se constituer contre ça. Et j'étais parti d'une idée aussi, selon laquelle, le vampire étant immortel, il est incapable de sublimation. C'est-à-dire que tout art lui est impossible. Donc mes personnages essayaient de pratiquer, mes personnages vampires essayaient de pratiquer des arts, mais ils échouaient à chaque fois, parce qu'ils ne faisaient que répéter des gestes sans vraiment ressentir l'urgence qu'il peut y avoir, puisqu'ils ne risquaient plus vraiment la mort. Et la religion, qui peut apparaître comme une sublimation, évidemment, est également impossible pour les vampires. Donc un vampire, tel que je les concevais dans ce roman, ne pouvait pas être croyant. Voilà, donc ça fait deux approches différentes qui me semblent tout aussi intéressantes.
Bah, dans mon univers, la religion n'a pas non plus vraiment sa place. Je suis pas quelqu'un de très religieux, j'ai rien contre la religion, mais personnellement, je pratique pas. Et mes personnages n'ont pas de, on va dire, de limitation. Enfin, les vampires n'ont pas de limitation due au, justement à la religion. Parce que je pense qu'il faudrait qu'ils soient eux-mêmes croyants, je pense, pour que la religion ait un effet sur eux. Il me semble que c'est dans... Tu pourrais me dire mieux que moi, mais Mercy Thompson, que son symbole, le symbole religieux qu'elle porte autour du cou n'a d'effet que parce qu'elle est croyante, et d'autres personnes qui le porteront sans être croyants n'auront pas de protection justement avec ça. Et je pense que c'est un aspect assez vrai que, il me semble, je débarque un peu, mais que maintenant on a de moins en moins des vampires qui réagissent justement aux croix, à l'eau bénite, parce qu'on est en train de migrer les jeunes maintenant. Ils n'ont plus, on va dire, d'obligations, beaucoup moins d'obligations par les parents, en tout cas dans notre société, d'aller à l'église, d'être pieux. Et c'est quelque chose qui marche moins bien. Et quand on regarde la figure du vampire, c'est quand même la partie noire de nous. Il peut faire plein de choses que nous, on ne peut pas. Il est libéré sexuellement, il boit du sang. C'est un méchant. Et ça ne fait plus forcément partie maintenant des choses qui... comment dire, des choses pour lesquelles on doit absolument rester dans le droit chemin. Et du coup, c'était pas un aspect religion qui m'intéressait. Je pense que ça se ressent que chez moi, il n'y a pas de religion et de limitation due à ça.
Alors, il est incontestable que la figure du vampire s'est laïcisée à partir des années 70. Ce qui me paraît intéressant, par exemple, c'est que dans le roman de Stephen King, Salem, celui qui lutte contre le vampire, c'est un prêtre alcoolique. Un prêtre alcoolique qui ne croit plus en Dieu. C'est gênant pour un prêtre. Donc, et précisément, il parvient à résister au vampire à partir du moment où il croit à la vertu de la croix qu'il porte, du crucifix qu'il porte. Mais il a du mal là, à y croire. Donc, lorsqu'il y croit... Le crucifix devient lumineux. Bon, ça, c'était un américanisme pas très élégant. Mais quand il n'y croit pas, eh bien, le crucifix perd toute sa valeur. Et je crois, une fois de plus, que c'est Anne Rice qui, la première, a complètement laïcisé le vampire, puisque dans son journal, Louis nous dit qu'il ne craint absolument pas les symboles de la religion, qu'il est entré dans une église, il n'a pas été réduit en cendres, donc pour lui, il n'y a aucun problème. Et cette tendance s'est confirmée à l'époque moderne. La question religieuse a beaucoup moins d'impact qu'elle ne l'avait au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Alors, en ce qui concerne maintenant la relation entre les vampires et Judas, ça, c'est très ancien. C'est très ancien parce que dans les légendes traditionnelles de Roumanie, de Serbie, d'Europe centrale, on croyait que, par exemple, les gens qui avaient les cheveux roux étaient prédisposés à devenir vampires après leur mort, parce que les cheveux roux, c'était la couleur des cheveux de Judas Iscariote. Et puis, en Roumanie, on croyait, il y avait une espèce de vampire qu'on appelait justement les enfants de Judas, qui étaient véritablement les descendants de Judas et qui risquaient donc qui répondaient la malédiction du vampirisme parce qu'ils étaient maudits à cause de leur ancêtre. Et puis l'anthologie que Jacques Finet et moi nous avons fait, il y a une nouvelle qui s'appelle Aut Diabolus Aut Nihil d'un certain XL, où on voit précisément un enfant de Judas qui laisse trois marques sur le front de ses victimes. Donc je pense que c'est une idée très, très ancienne, ça. C'est cette idée que les vampires sont plus ou moins des descendants de Judas.
On voit à travers des films comme Underworld que le jeu de rôle a eu une certaine influence sur la manière d'aborder le mythe du vampire, voire d'autres films comme Blade ou d'autres œuvres cinématographiques du genre. De la même manière, pensez-vous que le jeu de rôle, au sens large, ait influencé à un moment ou un autre la littérature vampirique, ou inversement? Alors c'est juste... en tant qu'auteur, pensez-vous en fait que le jeu de rôle a pu influencer la littérature au sens large, et en tant que rôliste, pensez-vous que le jeu de rôle a pu être influencé par la littérature à un moment ou à un autre? Est-ce que Vampire la Mascarade, finalement, a-t-il évolué depuis ses débuts au fur et à mesure des nouvelles tendances littéraires du marché?
Vas-y, c'est bon.
Moi, il y a eu une influence quand même, hein, c'est au niveau de la narration, puisque ce qui est très pratique dans le jeu de rôle, effectivement, comme tu le disais d'ailleurs, c'est que on joue en groupe, on joue tous ensemble. Et donc la construction va être autour de personnages qui effectivement vont constituer un groupe, ou alors voir comment ce groupe va se constituer, comment ils vont accepter un nouveau membre, comment ces personnages affrontent une histoire qui est parfois très ancienne, et ça on le retrouve dans beaucoup de jeux de rôle, et tous ces personnages quand même collaborent, coopèrent pour obtenir un résultat commun. Et donc ça on le retrouve vraiment, c'est-à-dire que, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai commencé moi par Néphilim, où il y avait effectivement un groupe de personnages, et quand j'ai écrit Homo Vampiris, j'ai réutilisé des éléments que j'avais prévus au départ pour faire une suite de Néphilim. Et on retrouve cette idée de groupe avec un personnage qui l'intègre, et ces gens qui passent à travers les siècles. Et je pense que ça c'est vraiment un mode de narration auquel on est beaucoup habitué, notamment dans la fantasy, avec une constitution progressive, un personnage qui évolue, qui rencontre d'autres personnages, et ça forme un ensemble à la fin. Et je pense que le jeu de rôle a pas mal influencé cette manière de faire.
Alors, je ne pourrais pas dire si Vampire la Mascarade a été influencé, ça fait une vingtaine d'années que ça existe. Donc bien sûr, à sa création, c'était très influencé par toute la littérature existante. Après, de dire que ça a été influencé, je ne saurais pas dire. Après, on peut citer des jeux de rôle qui ont été créés sur Buffy, par exemple, donc qui bien sûr découlent de la littérature qui se crée, ou des fictions qui se créent au fil du temps. Il y a même, il me semble, Twilight RPG, quelque chose comme ça. Donc, il me semble que c'est en train de sortir. Tu nous diras peut-être. Donc, en tout cas, j'en ai entendu parler. Donc, effectivement, ça se crée au fil du temps que. Enfin, lorsque des nouvelles fictions apparaissent, il y a peut-être des nouveaux jeux de rôle qui apparaissent. De là à dire que Vampire la Mascarade a été échangé, je ne saurais pas.
Je pense qu'on peut me sauter direct pour la question.
Moi, je pense qu'il y a eu interaction constante entre les différents moyens d'expression. On n'a pas parlé du cinéma, mais il est certain que le vampire, la littérature vampirique, n'existerait pas aujourd'hui s'il n'y avait pas le cinéma, et le cinéma vampirique n'existerait pas non plus s'il n'y avait pas la littérature. Et c'est la même chose pour les jeux de rôle. Je pense que les jeux de rôle ont une interaction avec la bitlite à l'heure actuelle. Ce qui me paraît intéressant dans les jeux de rôle, c'est qu'ils ont modifié quelque chose de vraiment fondamental, c'est que le vampire, y compris dans les romans d'Anne Rice, était un individu solitaire. C'est un individu solitaire contre tous. Alors que dans les jeux de rôle, les vampires sont organisés en clans. Donc il y a un côté, il y a une dynamique de groupe qui se fait chez les vampires. Les vampires ne sont plus l'exception. Et plus on va dans la littérature, plus ils deviennent la règle. Hein. Je crois d'ailleurs que le summum a été établi dans Je suis une légende de Matheson, puisque la totalité de l'humanité est devenue vampire, à l'exception d'un seul individu. Quoi. Donc on a un retournement complet de situation, et les jeux de rôle vont tout à fait dans ce sens-là. Les jeux de rôle, c'est vraiment le vampire en tant que collectivité, non plus en tant qu'individu isolé et complètement coupé de la société.
Alors... De la même manière, quel regard portez-vous sur les romans à licence, justement, dans ces univers rôlistiques? Il y a de nombreux romans dans l'univers de Vampire la Mascarade, ou d'autres dans Ravenloft aussi, on a beaucoup de romans. Donc, est-ce que vous considérez ces œuvres comme de la littérature à part entière? Est-ce que c'est vraiment une forme de littérature avec ses qualités Ou y a-t-il selon vous des problèmes qualitatifs pour ce type de texte? Ou est-ce dû tout simplement à une idée reçue? Notamment Fabien, vu que toi tu as travaillé sur des romans à licence quelque part, vu que Néphilim c'est une licence tout drôle, je pense qu'il n'y a pas de...
Oui, je pense.
Justement, selon vous, en fait, est-ce que ce sont des romans qu'on peut considérer comme faisant partie vraiment de la littérature vampirique, qui sont intéressants en termes de littérature, ou est-ce que c'est juste, c'est juste une espèce de produit dérivé sans réel intérêt?
Alors, moi, j'en ai lu un roman adapté de Vampire la Mascarade, et je dois avouer que ça ne m'avait pas du tout intéressé. Je l'ai lu rapidement parce qu'on me l'avait donné. Et vraiment, c'était... Enfin, ça ne m'a pas intéressé du tout, je me souviens même plus de ce dont ça parlait, à part de vampires. Sinon, alors après, ça dépend comment le roman est fait. Ça peut être tout à fait... ça peut être d'excellente qualité comme de très mauvaise, étant donné qu'on part d'un... C'est comme pour un roman réaliste, on part du réel. Là, la différence, c'est que notre documentation, elle est dans le livre-univers. À partir du moment où on colle aux règles de cet univers, on peut créer n'importe quoi dedans. L'idée, c'est de sortir éventuellement d'une partie de jeu de rôle qui serait novélisée. Ça, à mon avis, c'est le risque, parce que ça n'obéit pas aux mêmes impératifs narratifs. Enfin, sachant qu'il y a, par exemple, les joueurs qui interviennent en permanence dans l'action et qui créent une autre logique. Et ce qui fait que ce qui, dans une partie, va être extrêmement intéressant, plein de rebondissements, qui va mettre les joueurs en avant, etc., dans un roman, ça va être extrêmement plat, linéaire... On va être constamment frustré parce que il n'y aura pas de rythme, ou en tout cas pas celui qu'on attend. Donc je pense que c'est l'écueil à éviter. Si on évite cet écueil-là, on peut faire de très bonnes choses.
Alors moi, j'en ai jamais lu, donc je vais passer mon temps de parole.
J'ai lu un, mais c'était pas sur les vampires et ça m'avait pas passionné au niveau du scénario. Donc je ne sais pas plus loin ce sur les vampires.
Alors moi, à l'époque où je collectionnais systématiquement tout ce qui était vampire, étant angliciste, j'ai acheté pratiquement tous les premiers romans de la série Vampire de la Mascarade, et j'en ai ingurgité un certain nombre. Donc, ce que je reproche à ce type de littérature, et c'est vrai aussi, alors je vais peut-être choquer, hein, mais c'est ce que je reproche aussi à la bitlit, c'est que ça devient rapidement très répétitif. Alors évidemment, les jeux de rôle, il y a la mascarade, moi c'est surtout celui-là, j'ai lu quelques Ravenloft, mais c'est surtout le Vampire la Mascarade que j'ai lu. Et donc, il y a un foisonnement entre les clans, il y a les Toréadors, les Timichés, il y a tous ces personnages. Mais une fois qu'on est entré dans ce monde-là, on retombe toujours un peu sur le même genre d'intrigue, et c'est un petit peu ce que je reproche à cette littérature. Et c'est aussi ce que je reproche à la bitlit, hein, parce que les romans de Laurel K. Hamilton, c'est très distrayant au début. Ça devient un peu plus ennuyeux quand on arrive au numéro 14, quoi. Hein, et moi, maintenant, à l'heure actuelle, je ne collectionne plus les romans de vampires, parce que ma maison ne pourrait pas tenir la totalité de la production. Hein. Et ce que je recherche surtout, c'est des romans qui sont originaux, qui sortent de l'ordinaire, qui essaient de donner une nouvelle image du vampire. Et c'est pourquoi, à l'heure actuelle, je m'intéresse beaucoup plus aux jeunes auteurs français, j'en ai une à côté de moi, qu'aux auteurs américains qui, à mon avis, ont usé, abusé du système.
Juste une question. Sur la manière dont on devient un vampire, et dans Vampire la Mascarade, et dans vos deux romans, dans vos deux univers, pour qu'on puisse voir les correspondances, parce que la question de la transmission chez le vampire est importante. Marika, comment on devient un vampire chez toi?
C'est un spoiler, alors, parce que ça n'a pas encore été abordé. Mais en fait, c'est plutôt attrait à une malédiction du sang. Et c'est vraiment la base, c'est une malédiction pas divine, totalement humaine, mais ça part de là, en fait, chez moi.
Même avec le film.
Alors moi, comme j'en ai deux, je vais vous expliquer dans les deux. Dans Homo Vampiris, il y a un lien entre les deux, c'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait, au lieu du vampire, justement, on a peur de la contamination, etc., moi, je l'abordais d'une autre manière, c'est plutôt sous le terme de la stérilité. Où le vampire étant une créature parasite, c'est une créature qui n'arrive pas à créer. Et ça rejoint tout ce qui est sur la sublimation impossible, dont je parlais tout à l'heure. Donc ça fonctionne par morsure, mais c'est un virus qui est transmis, enfin un parasite, qui transforme le corps hôte, ça c'est dans Homo Vampiris, mais ça marche qu'une fois, c'est genre 0,7% de réussite, ce qui est très peu, et donc les vampires éventuellement sont assez ennuyés, quoi. Ils sont toujours à la recherche justement d'autres choses. Dans l'autre roman, Le miroir aux vampires, il s'est passé une espèce de cataclysme terrible dont je parlerai pas, sinon ça va être un petit peu gênant pour l'intérêt de l'histoire. Mais en tout cas, il se trouve que les vampires ne sont plus capables d'engendrer de nouveaux vampires. Voilà, donc ça devient une problématique fondamentale pour le vampire.
Bon, dans Vampire et Mascarade, c'est pas très c'est assez compliqué. Au moment où la victime est au seuil de la mort, alors peut-être parce que son sang. Enfin, elle s'est vidée de son sang ou parce qu'elle est en train de mourir, on peut effectivement l'étreindre, c'est le terme qui est utilisé, en donnant un peu de son sang, en faisant couler un peu de son sang, ça marche généralement. Enfin, si c'est bien fait, ça marche. Mais c'est une technique normalement qui s'apprend un peu. C'est-à-dire quand on est juste un jeune vampire, on sait pas comment ça marche. Voilà. Donc je pense qu'il y a un côté assez sensuel à la chose où effectivement on peut donner le sang tout simplement dans une coupe, bon c'est pas top, mais tout simplement en faisant boire à son poignet la victime. Voilà.
C'est important dans le jeu, c'est un des temps forts du jeu ou d'un scénario.
Au début d'une campagne, ça va être très intéressant de faire jouer ça, ces joueurs, de façon individuelle, avec toute une personne mystérieuse qui va approcher le joueur, alors peut-être de façon très violente, ou au contraire, de façon assez. En la séduisant. Et effectivement, c'est intéressant parce qu'on arrive au moment où on est étreint. Alors, il y a toute une description qui est faite dans tous les livres à quel point c'est agréable de sentir le sang couler en soi et puis de renaître en quelque sorte. Puis bon, là on se transforme en monstre, alors c'est moins rigolo, on a très très envie de boire du sang, et là c'est le côté horrible qui reprend le dessus.
D'accord. Je voudrais revenir sur Anne Rice une fois de plus, je suis désolé. Mais Anne Rice a apporté un élément nouveau justement à la gestation des vampires, la façon de créer des vampires. C'est que dans la légende, dans Dracula et dans toute la littérature classique, la victime du vampire meurt, et à partir du moment où elle meurt, elle devient à son tour vampire. Tandis qu'Anne Rice, elle a fait du vampirisme sélectif. C'est-à-dire que le vampire a la faculté de choisir parmi ceux qu'il préfère, ceux qui sont destinés à devenir vampires. Et pour ça, il faut que la victime boive du sang du vampire lui-même. Donc il prend son sang, il lui donne son propre sang en échange, ce qui fait que... Et ça, cette conception-là, a été reprise à peu près dans toute la littérature contemporaine. L'échange de sang est devenu pratiquement obligatoire pour devenir vampire. Voilà.
Même dans la bitlite aujourd'hui ?
Même dans la bitlite aujourd'hui, oui. Enfin, peut-être avec des nuances, mais...
Oui, dans la bitlite, il y a de tout, mais...
Il y a
de
tout, oui.
Moi qui ai vu plus de bitlite que de classique, on va dire, il faut... Il y a un échange de sang, il y a... Plus... c'est un partage, quoi. C'est un don.
Oui, c'est ça, c'est the gift en anglais.
Il me semble qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Jésus qui avait dit quelque chose. Oh, oui, tiens, voilà mon sang.
Voilà, oui.
Donc, le jeu de rôle Grandeur Nature, donc, qui est une évolution quelque part du jeu de rôle plateau Vampire la Mascarade, tout du moins une dérivation, permet d'incarner des vampires. Donc c'est une question spécifique pour notre ami rôliste. Mm-hmm. Qu'est-ce qui intéresse les joueurs de jeu de rôle dans cette expérience un peu différente? C'est-à-dire passer du papier finalement où on joue, mais tout se passe finalement dans la tête, vu qu'il n'y a pas forcément de décor, on n'est pas forcément déguisé, on n'est pas forcément dans une pièce. On a l'impression d'être dans le lieu, et cette envie de se déguiser, de créer finalement des enquêtes, mais et d'évoluer physiquement dans celle-ci en fait.
Alors le côté soit enquête ou GN de Vampire en fait est apparu assez tôt. Au départ, effectivement, c'était un jeu d'ambiance Vampire et les créateurs ont voulu apparemment assez rapidement que ça devienne. Enfin, ils ont proposé assez rapidement de faire ça soit enquête. Bon, ça n'a pas trop pris peut-être en France, aux États-Unis ça a beaucoup plus pris et aujourd'hui encore ça continue à être important. Enfin, en Amérique du Nord en général. Et ce qui va intéresser les joueurs, c'est pas. Donc, quand on est autour d'une table, on est quand même assez ensemble. On est 5 joueurs, on forme un groupe, une coterie, on appelle ça. Et on va essayer de résoudre un problème ensemble. Dans le côté GN, au contraire, on va être en opposition. Avec normalement des intrigues qui se croisent, qui s'entrecroisent, des luttes de pouvoir, avec une hiérarchie forte. Et la volonté de monter dans cette hiérarchie parce qu'on est un être qui s'ennuie et qui a que ça à faire, de toute façon. Et donc, on va vraiment passer du côté je joue avec mes amis. Au côté, je joue contre les autres et je fais des alliances, je les brise, je les recrée. Voilà. Après, il y a le côté costume aussi qui va plaire beaucoup. C'est pour ça que les gens se costument effectivement avec des jolis corsets, etc. Parce qu'il y a des gens qui adorent ça. Et puis, il y a le côté discussion qui est plus intéressant, avec une ambiance beaucoup plus feutrée qu'autour d'une table de jeu de rôle parfois. Parce que, bon, autour d'une table de jeu de rôle, quand on est 5, il peut y avoir du bruit, etc. Dans un GN, on peut être 2 dans un coin et être tranquille avec une petite lumière. Donc, il y a tout de suite un côté plus tamisé. Et puis, donc il y a certaines parties où on mime un peu les gestes, et il y a un côté sensuel. Bon, il y a aussi beaucoup de parties où ça finit. Enfin, il y a eu une époque où il y a eu des parties qui ont fini en orgie, et je pense qu'il y a des gens qui aiment ça, tout simplement. Voilà. C'était, je pense, autre chose que du jet.
Alors, double question, un peu différente selon si on est rôliste ou essayiste ou auteur sur le sujet. Si demain vous devez incarner un vampire, donc ça c'est pour la partie rôliste, quelles en sont pour vous les caractéristiques principales? Qu'est-ce qui fait que ce type de vampire là va vous plaire? Qu'est-ce qui permet de l'incarner? Quelles sont les caractéristiques quand vous allez jouer le personnage sur lequel vous allez appuyer? Et au niveau des auteurs et des essayistes, quelles sont pour vous les caractéristiques inaliénables de la créature vampirique? En fait, qu'est-ce qui fait qu'un vampire est un vampire?
Au risque de paraître très classique, il est mort, enfin, mais pas vraiment. Et puis il boit du sang. Et voilà, donc après, il y a plein de variations autour, mais ça me semble le fondamental. Et ça, je reviens d'ailleurs sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les origines du vampire. On a parlé de Cain, on a parlé de Judas. Il y a aussi Lilith qui apparaît aussi comme le prototype du vampire et qui est effectivement extrêmement ancien. Voilà, c'est juste pour. Ça.
Moi j'ai des goûts variés, donc ça dépend de ce qu'on joue et puis de ce que j'ai envie de jouer sur le moment. Donc, voilà, ceci dit, oui, ça m'intéresse moyennement de jouer un vampire trêlé parce qu'il y a quand même une part de sensualité dans le vampire, on va dire. Ou un vampire incapable parce que dans le jeu de rôle c'est souvent un super héros le vampire, un super héros triste et damné, mais bon, ça reste un super héros.
Bon bah, comme on a dit, mort et damné, je pense qu'il doit beau ou belle, pour moi, pas forcément, mais il devrait avoir un côté fascinant. Je pense que c'est quelque chose du vampire qui fascine pour se nourrir ou pour séduire à d'autres fins, on va dire. Pas forcément qui ne peut pas supporter les rayons du soleil. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore abordé, oui. Mais ça va, je pense, avec l'aspect religieux où le vampire, il représente quand même plein de... Enfin, comme je disais, les choses qu'on devrait faire, on devrait être droit devant Dieu et on ne devrait pas cacher des choses en noir. Donc je pense que maintenant, ça c'est aussi quelque chose qui a changé avec la Bitly. Tu peux beaucoup plus sortir au grand air, profiter de la plage. Non, mais ce serait surtout ça. Je pense un côté fascinant, pas forcément beau, qui boit du sang et qui est maudit. Un peu plus fort aussi que les humains.
Oui, alors je vais reprendre tout ce qui a été dit, hein, c'est-à-dire que les caractéristiques fondamentales du vampire, c'est la mort comme renaissance, d'une part, hein, c'est la vie éternelle posthume, et c'est la nuit, hein, la nuit et le sang. Hein, je pense que la nuit, c'est fondamental. Hein, je trouve que les vampires qui n'obéissent pas à ces caractéristiques sont plus tout à fait des vampires. Et il y en a un que je vise tout à fait, c'est le héros de Twilight, qui se balade le jour, qui ne boit plus de sang, qui est gentil comme tout. Je trouve moyennement séduisant, mais enfin, je suis un homme, hein, donc les jeunes filles, c'est pas la même chose. Mais... Et donc.
Je peux être assez jeune.
Non, mais ça m'est arrivé de faire des animations dans des collèges sur les vampires, et j'ai remarqué que les jeunes collégiennes étaient amoureuses, toutes amoureuses de
comment ça s'appelle ?
Édouard. Donc.
Pourquoi. On sent bien qu'il y a des évolutions dans la littérature vampirique. Vampire Mascarade, ça a 20 ans aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu des évolutions dans le jeu et dans le personnage du vampire? Et est-ce qu'il y a des jeux de rôle nouveaux aujourd'hui sur les vampires? Est-ce que ça change ou est-ce qu'il y a toujours une norme Vampire Mascarade et rien d'autre à côté?
Merci. Alors oui, il y a une nouvelle édition de Vampire la Mascarade qui est sortie, parce qu'au bout d'un moment, Vampire la Mascarade, à force de rajouter des éditions, parce que l'éditeur a sorti beaucoup d'améliorations, de suppléments, etc. Donc au bout d'un moment, ça fait beaucoup de choses à gérer, donc ils ont dit on fait table rase, on va un petit peu corriger nos erreurs, on va faire un nouveau monde, avec, on oublie tout ce qu'il y avait avant, et on va faire ce qu'on appelle Mascarade le Requiem, voilà, qui est sorti il y a quelques années. Au niveau des GN, il y a des GN qui passent, on va dire, dans l'univers Requiem, où il y a, on va dire, une hiérarchisation moins forte. Même si on est en bas de l'échelle, on peut quand même espérer monter un jour. On est dans Vampire Mascarade, si on était en bas de l'échelle, c'était difficile de monter. Et voilà, quelques simplifications de jeu, avec un côté où on choisit son clan, enfin une partie du clan qui est choisie, au lieu d'être à la naissance, qui est une malédiction, on va choisir d'être démocrate, ou d'être diaboliste, enfin méchant, ou sorcier, etc. Voilà.
Donc il y a des vampires démocrates.
En quelque sorte, enfin, vampire pour la démocratie parmi les vampires.
D'accord. Et ouais. dans la figure même du vampire, ce qui fait qu'un vampire est un vampire dans Vampire la Mascarade.
Alors, dans Vampire la Mascarade, ça n'a pas énormément évolué. Donc, ça reste effectivement la nuit, l'immortalité, le sang. Et il y a effectivement des nouveaux jeux de rôle qui sortent, mais quasiment tous éclipsés par Vampire, le Requiem, la Mascarade. Donc, il y a Buffy RPG où on joue de l'autre côté. Il va y avoir effectivement des jeux où souvent on va jouer des humains qui se battent contre des vampires, entre autres, ou des créatures surnaturelles. Mais dans l'ensemble, effectivement, c'est tout éclipsé par ces deux univers.
Alors, je cherche juste une question. J'ai une dernière question, du coup. Le mythe du vampire a vu sa visibilité exploser ces dernières années, notamment à travers ce qu'on appelle Bikit d'un côté pour la sphère plus adulte, et Young Adult en fait pour les plus jeunes, qui est en théorie un peu moins, on va dire, sexualisé. Qu'en pensent les auteurs présents de cette évolution de la Bikit, du Young Adult et finalement de cet éparpillement au niveau générationnel de la créature? Et au niveau des rôlistes, cette évolution de mythe a-t-elle un impact sur le jeu? Donc on a plus ou moins abordé la question en suspens plusieurs fois, à savoir est-ce qu'il y a finalement un ressenti bitlit dans Vampire la Mascarade ou éventuellement dans d'autres jeux du genre? Et est-ce que le fait que cette littérature-là existe et qu'elle soit devenue populaire, est-ce que ça influence pas aussi les joueurs, l'écriture de scénarios éventuellement pour essayer trouver des histoires en fait qui surfent un petit peu sur ces thématiques là.
J'ai oublié la question. Désolé, je suis pas attentif.
Le mythe du vampire a vu sa visibilité exploser ces dernières années, notamment à travers ce qu'on appelle Bikit ou Young Adult.
Ah, okay.
Quand on voit ces auteurs présents, et pour les rôlistes, en fait, est-ce que ça a un impact sur le jeu en ce moment?
Oui, bon bah en fait il n'y a pas une grande différence, si ce n'est que le vampire a été beaucoup utilisé comme métaphore du passage à l'âge adulte, des premières expériences sexuelles. Donc même si on est en young adulte et qu'il ne se passe rien de très précis, même si ça commence à arriver dans certains textes, tout est entre les lignes sur cette métaphore. Et je pense que ça, c'est beaucoup Buffy, encore une fois, qui est responsable de ça, qui l'a beaucoup utilisé, sachant que Buffy est allé plus loin, puisque comme ça c'était sur 7 saisons, ils ont réussi à en faire vraiment, non pas juste le passage à l'âge adulte, mais vraiment le fait de grandir, le fait de vieillir. Et c'est même pas juste l'adolescence, c'est vraiment au-delà, devenir adulte réellement. Et depuis, on a tendance à voir le vampire surtout sous cet aspect. Et pourquoi pas, si ce n'est que les vampires qui nous sont souvent proposés, donc comme dans Twilight, c'est des vampires restreints. Alors que justement, le vampire est au départ une créature transgressive, comme on l'a dit. Là, c'est un nouveau, comment on appelle ça, Enfin, il est complètement contraint, c'est celui qui s'empêche, etc. Il y a qu'à voir la scène de la nuit de noces dans Twilight encore, c'est vraiment la sexualité est vue comme quelque chose de dangereux, qui doit être contenu, et le vampire est l'incarnation finalement dans ce type de littérature d'une sexualité qui devient apprivoisée. Alors ça peut être rassurant à l'adolescence, vu de plus loin, je trouve ça un peu triste. Voilà. Et après j'aurais juste une question pour Jean-Marie.
Alors la question c'était exactement pour les rôlistes.
Alors j'ai déjà demandé.
Pour les rôlistes, en fait, au niveau du.
Ah oui.
Est-ce que les bits ont un impact au niveau de la manière dont les joueurs incarnent les personnages, dont les maîtres du jeu écrivent les scénarios.
Alors j'ai pas encore rencontré la génération qui a aimé Twilight et compagnie. Alors je saurais pas te dire, dans l'ensemble, le rôliste est quand même barbu et. Bon, ça tend à disparaître heureusement, mais. Le rôliste est. Enfin, je sais que tous mes amis rôlistes ont détesté Twilight, ont dit non, c'est n'importe quoi, c'est dénaturation. Donc voilà, vraiment un rejet. Parmi, je pense, les gens qui ont joué à la mascarade pendant longtemps, un rejet de tout cet univers trop gentillé pour eux. Et donc, pas trop de différence. Après, rien n'empêche d'utiliser effectivement les thèmes abordés dans la BitLit pour créer des scénarios, mais je ne suis pas sûr en fait que les maîtres de jeu lisent ce genre de littérature. Peut-être que ça arrivera dans quelques années, j'espère. Et en tout cas, si ça peut amener les gens à jouer au jeu de rôle, enfin si en découvrant la BitLit, après on s'intéresse à d'autres livres sur. Et au jeu de rôle, par exemple, Vampire Mascarade, tant mieux.
Évolution du personnage en vampire qui brille.
Oui, les vampires qui brillent. Ouais.
Bon, bah, moi, je repars sur la BitLit et pas la Young Adult, qui n'est pas tout à fait la même chose. Où là, bah, on n'a pas cette sexualité désolée, enfin, retenue. Au contraire, justement, je pense qu'il y a beaucoup changé dans la BitLit. Maintenant, c'est l'image de la femme plus que du vampire, qui est beaucoup plus débrouillarde, qui est beaucoup plus libérée. Et qui aime plus le danger, on va dire, puisqu'elle aime frayer avec les créatures dangereuses, que ce soit vampires ou autres. Donc, et bah, c'est quelque chose qui plaît aux femmes. Hein. Je pense plus aux femmes que aux hommes. Mais c'est une certaine libération. Après, le vampire a tendance à il y a deux courants toujours. Il y a la BitLit et la Paranormal Romance où là, la femme est plus voit plus le vampire comme un Adonis qui peut résoudre tous ses problèmes, apporter un amour éternel justement, et c'est très différent. Mais niveau BitLit, ce que je trouve intéressant et justement ce qui est bien, c'est la femme qui est différente, plus que on mate les vampires plus que on les plus qu'on les mate. On les...
Alors moi, je me place évidemment du point de vue du lecteur de base, hein, parce que je ne suis ni rôliste ni créateur, donc. Et en tant que consommateur d'histoires de vampires, si j'ose dire, moi, ce que je déplore de l'évolution générale du personnage à notre époque, c'est qu'il est totalement aseptisé, quoi. C'est-à-dire que tout ce qui fait quand même l'intérêt du vampire, c'est-à-dire la violence, la peur, la terreur, l'horreur, tout ça c'est un petit peu gommé, on fait du vampire un personnage sympathique, vivable, et ça c'est une évolution qui me paraît pas positive. En revanche, ce que j'aime dans la littérature contemporaine, c'est quand je découvre un roman qui nous présente un vampire pas rassurant, mais qui a une autre dimension. Alors je pense, moi, le roman qui a été vraiment une découverte pour moi, je l'ai déjà dit ce matin abondamment, c'est Laisse-moi entrer de John Ashville, Lindquist, parce que c'est un vampire très complexe, qui est à la fois touchant, et qui est une petite fille, hein, une petite fille de 12 ans. Hein, ça c'est une dimension vraiment particulière. Hein, là, on ne joue pas dans la dentelle. Hein. Une petite fille de 12 ans qui est un véritable monstre, et qui est en même temps touchante, parce que c'est une petite fille de 12 ans. Quoi. Et cet aspect, cette ambivalence du personnage me paraît très séduisant. Je crois qu'il faudrait peut-être creuser dans ces dimensions-là, faire des personnages ambigu, ambivalent, et il y a une autre dimension aussi qui peut apporter un sang frais, si j'ose dire, au vampirisme, c'est l'humour noir aussi. Il y a eu, surtout aux États-Unis, un certain nombre de romans qui renouvelaient avec bonheur le thème du vampire sous l'angle de l'humour noir. Ah oui, ah oui, il y avait une question posée.
Oui, oui. Ouais, j'en profite. Oui, c'était sur le rapport des vampires avec la nuit. Mm-hmm. Moi, il me semblait, alors ça ne peut pas être dans un de tes livres, puisque il me semblait que le fait que le vampire ne puisse pas supporter le jour avait été plus ou moins inventé, ou en tout cas mis en avant, au moment des premières adaptations au cinéma, avec le Nosferatu de Murnau, et que c'était là que cette idée était vraiment apparue, que le vampire ne supportait pas le soleil. Quand est-ce que ça apparaît ?
En fait, si on se réfère aux légendes, le vampire, c'est comme un fantôme. Mmh. Il ne peut apparaître que la nuit. Mmh. Parce que c'est une créature démoniaque, et les créatures démoniaques, les créatures surnaturelles mauvaises, ne peuvent exercer leur pouvoir que la nuit. Mm-hmm. Donc, dans la légende, on ne peut pas imaginer de vampires qui se baladent de jour. En revanche, dans la littérature du 19e siècle, on s'en fiche complètement. Les vampires se promènent aussi bien la nuit que le jour. Et Bram Stoker, avec une petite entorse, hein, c'est Bram Stoker qui, le premier, fait une obligation pour le vampire de ne sortir qu'après le coucher du soleil. Hein. Mais Jonathan Harker le rencontre à Londres en plein après-midi. Hein. Et apparemment, il n'est pas très vaillant, parce que le soleil, ça ne lui réussit pas trop, mais c'est encore possible. Hein. Mais en fait, si le cinéma, sur ce plan-là, a peut-être rejoint la tradition légendaire, quoi, et plus fidèle à la tradition légendaire que la littérature du 19e siècle. D'accord. Je crois que c'est une constante maintenant. La plupart des vampires sortent quand même la nuit. Alors, il y a toutes sortes d'astuces. Hein. Dans la littérature américaine, par exemple, les vampires ont des activités professionnelles, mais ils choisissent des activités professionnelles qui ne les obligent pas à apparaître le jour. Quoi. Alors, ils peuvent être veilleurs de nuit, ils peuvent être les prostituées, Donc, on trouve des astuces, mais il y a toujours cette obligation de fuir le soleil. Hein. Le soleil qui... Alors, plus on va, et plus les effets du soleil, d'ailleurs, sont redoutables, hein, puisque dans les films modernes, ils prennent feu, hein, carrément, les vampires. Hein. Donc, voilà. Que je voulais dire, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Je crois
qu'on
va... Si quelqu'un du public a des questions, est-ce que quelqu'un a une question à poser ? Donc, je crois qu'on va... On va en terminer là avec les questions du débat. Donc je tiens vraiment à remercier Fabien Clavel, Guilhem Barlois, Marika Gallman et Jean-Marie Mie, donc pour les réponses qu'ils ont pu nous apporter à nos questions sur le thème du vampire. N'oubliez pas en fait qu'ils sont en dédicace juste en bas avec de nombreux livres à eux, notamment les livres sur le thème du vampire. Évidemment. Et qui seront un plaisir de vous dédicacer leurs ouvrages.
Hélas.
Donc, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. C'est correspondant à vos attentes en termes de par rapport à notre thème en fait. Donc, le but était quand même de mêler justement la sphère fictive et la sphère ludique, ce qui nous semble intéressant parce que c'est pas quelque chose qui est régulièrement abordé en fait. Les entrecroisements en fait entre le jeu de rôle, éventuellement le jeu de plateau, même si là c'était pas une dimension sur laquelle on a beaucoup appuyé, et donc toute la sphère fictionnelle, la littérature vampirique. Je vous remercie.
Merci.